Chapitre 5. Pierrette, malgré sa faiblesse, ôta les barres de bois qui maintenaient les volets de la cuisine, les ouvrit et les accrocha, puis elle alla ouvrir également la porte du corridor donnant sur le jardin. Elle prit les différents balais nécessaires à balayer le tapis, la salle à manger, le corridor, les escaliers, enfin, pour tout nettoyer, avec un soin, une exactitude qu'aucune servante, fût-elle hollandaise, ne mettrait à son ouvrage. Elle haïssait tant les réprimandes. Pour elle, le bonheur consistait à voir les petits yeux bleus, pâles et froids de sa cousine, non pas satisfaits, il ne le paraissait jamais, mais seulement calmes, après qu'elle avait jeté partout son regard de propriétaire, ce regard inexplicable qui voit ce qui échappe aux yeux les plus observateurs. Pierrette avait déjà la peau moite quand elle revint à la cuisine y tout mettre en ordre, allumer les fourneaux, afin de pouvoir porter du feu chez son cousin et sa cousine, en leur apportant à chacun de l'eau chaude pour leur toilette, elle qui n'en avait pas pour la sienne. Elle mit le couvert pour le déjeuner et chauffa le poêle de la salle. Pour ses différents services, elle allait quelquefois à la cave chercher le petit fagot, et quittait un lieu frais pour un lieu chaud pour un lieu froid et humide. Ces transitions subites, accomplies avec l'entraînement de la jeunesse, souvent pour éviter un mot dur, pour obéir à un ordre, causaient des aggravations sans remède dans l'état de sa santé. Pierrette ne se savait pas malade. Cependant, elle commençait à souffrir. Elle avait des appétits étranges, elle les cachait. Elle aimait les salades crues et les dévorait en secret. L'innocente enfant ignorait complètement que sa situation constituait une maladie grave et voulait les plus grandes précautions. Avant l'arrivée de Brigaut, si ce Néro, qui pouvait se reprocher la mort de la grand-mère, eût révélé le danger mortel à la petite fille, Pierrette eût souri. Elle trouvait trop d'amertume à la vie pour ne pas sourire à la mort. Mais depuis quelques instants, elle, qui joignait à ses souffrances corporelles les souffrances de la nostalgie bretonne, maladie morale si connue que les colonels y ont égard pour les Bretons, qui se trouvent dans leur régiment, elle aimait Provins. La vue de cette fleur d'or, ce chant, la présence de son ami d'enfance, l'avait ranimée comme une plante depuis longtemps sans eau ou reverdie après une longue pluie. Elle voulait vivre, elle croyait ne pas avoir souffert. Elle se glissa timidement chez sa cousine, y fit le feu, y laissa la bouilloire, échangea quelques paroles, alla réveiller son tuteur et descendit prendre le lait, le pain et toutes les provisions que les fournisseurs apportaient. Elle resta pendant quelque temps sur le seuil de la porte, espérant que Brigaut aurait l'esprit de revenir. Mais Brigaut était déjà sur la route de Paris. Elle avait arrangé la salle, elle était occupée à la cuisine, quand elle entendit sa cousine descendant l'escalier. Mademoiselle Sylvie Rogron apparut dans sa robe de chambre de taffetas couleur carmélite, un bonnet de tulle orné de coques sur la tête, son tour de faux cheveux assez mal mis, sa camisole par-dessus sa robe, les pieds dans ses pantoufles traînantes. Elle passa tout en revue et vint trouver sa cousine qui l'attendait pour savoir de quoi se composerait le déjeuner. « Ah ! Voilà donc, mademoiselle l'amoureuse !» dit Sylvie à Pierrette d'un ton moitié gai, moitié railleur. « Plaît-il, ma cousine ? Oui, vous êtes entrée chez moi comme une sournoise, et vous en êtes sortie de même. Vous deviez cependant bien savoir que j'avais à vous parler. Moi ? Vous avez eu ce matin une sérénade, ni plus ni moins qu'une princesse. » « Une sérénade ? » s'écria Pierrette. « Une sérénade ? reprit Sylvie en l'imitant. Et vous avez un amant? Ma cousine, qu'est-ce qu'un amant? Sylvie évita de répondre et lui dit. Osez dire, mademoiselle, qui n'est pas venu sous vos fenêtres un homme pour parler mariage? La persécution avait appris à Pierrette les ruses nécessaires aux esclaves. Elle répondit hardiment. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mon chien, dit aigrement la vieille fille. Ma cousine, reprit humblement Pierrette. Alors, vous ne vous êtes pas levé non plus, et vous n'êtes pas allé non plus du pied à votre fenêtre. Ce qui vous vaudra quelque bonne maladie. Attrape, ce sera bien fait pour vous. Vous n'avez peut-être pas parlé à votre amoureux. Mais non, ma cousine. Oh, je vous connaissais bien des défauts, mais je ne vous savais pas celui-là, celui de mentir. Pensez-y bien, mademoiselle. Il faut vous dire et vous expliquer à votre cousin et à moi la scène de ce matin, sans quoi votre tuteur verra prendre des mesures rigoureuses. La vieille fille, dévorée de jalousie et de curiosité, procédait par intimidation. Pierrette fit comme les gens qui souffrent au-delà de leurs forces. Elle garda le silence. Ce silence est, pour tous les êtres attaqués, le seul moyen de triompher. Il lasse les charges cosaques des envieux, les sauvages escarmouches des ennemis. Il donne une victoire écrasante et complète. Quoi de plus complet que le silence? Il est absolu, n'est-ce pas une des manières d'être de l'infini? Sylvie examina Pierrette à la dérobée. L'enfant rougissait, mais sa rougeur, au lieu d'être générale, se divisait par plaques inégales aux pommettes, par taches ardentes et d'un ton significatif. En voyant ces symptômes de maladie, une mère eût aussitôt changé de ton. Elle aurait pris cet enfant sur ses genoux, elle l'eût questionné. Elle aurait déjà depuis longtemps admiré mille preuves de la complète, de la sublime innocence de Pierrette. Elle aurait deviné sa maladie et compris que les humeurs et le sang détournés de leur voix se jetaient sur les poumons après avoir trouvé les fonctions digestives. Ces taches éloquentes lui eussent appris l'imminence d'un danger mortel. Mais une vieille fille, chez qui les sentiments que nourrit la famille n'avaient jamais été réveillés, à qui les besoins de l'enfance, les précautions voulues par l'adolescence étaient inconnues, ne pouvait avoir aucune des indulgences et des complaisances inspirées par les mille événements de la vie ménagère conjugale. Les souffrances de la misère, au lieu de lui attendrir le cœur, y avaient fait des calus. Elle rougit, elle est en faute, se dit Sylvie. Le silence de Pierrette fut donc interprété dans le plus mauvais sens. « Pierrette, dit-elle, avant que votre cousin ne descende, nous allons causer. Venez, dit-elle d'un ton plus doux. Fermez la porte de la rue. Si quelqu'un vient, on sonnera, nous entendrons bien. » Malgré le brouillard humide qui s'élevait au-dessus de la rivière, Sylvie emmena Pierrette par l'allée sablée qui serpentait à travers les gazons jusqu'au bord de la terrasse en rochers rocaillés, qu'est pittoresque, meublée d'iris et de plantes d'eau. La vieille cousine changea de système. Elle voulut essayer de prendre Pierrette par la douceur. L'hyène allait se faire chatte. « Pierrette, lui dit-elle, vous n'êtes plus un enfant. Vous allez bientôt mettre le pied dans votre 15e année. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que vous eussiez un amant. Mais ma cousine, dit Pierrette en levant les yeux avec une douceur angélique vers le visage aigre et froid de sa cousine qui avait pris son air de vendeuse, mais qu'est-ce qu'un amant? Il fut impossible à Sylvie de définir avec justesse et décence un amant à la pupille de son frère. Au lieu de voir dans cette question l'effet d'une adorable innocence, elle y vit de la fausseté. Un amant, Pierrette, est un homme qui vous aime et qui veut vous épouser. Ah, dit Pierrette. Quand on est d'accord, en Bretagne, nous appellerons alors ce jeune homme un prétendu. Eh bien, songez qu'en avouant vos sentiments pour un homme, il n'y a pas le moindre mal, ma petite. Le mal est dans le secret. Avez-vous plu par hasard à quelques-uns des hommes qui viennent ici? Je ne le crois pas. Vous n'en aimez aucun? Aucun? Bien sûr, bien sûr. Regardez-moi, Pierrette. Pierrette regarda sa cousine. Un homme vous a cependant appelé sur la place ce matin. Pierrette baissa les yeux. Vous êtes allée à votre fenêtre, vous l'avez ouverte et vous avez parlé. Non, ma cousine, j'ai voulu savoir quel temps il faisait. J'ai vu sur la place un paysan. Pierrette, depuis votre première communion, vous avez beaucoup gagné, vous êtes obéissante et pieuse, vous aimez vos parents et Dieu. Je suis contente de vous, je ne vous le disais point pour ne pas enfler votre orgueil. Cette horrible fille prenait l'abattement, la soumission, le silence de la misère pour des vertus. Une des plus douces choses qui puissent consoler les souffrants, les martyrs, les artistes, au fort de la passion divine que leur impose l'envie et la haine, est de trouver l'éloge là où ils ont toujours trouvé la censure et la mauvaise foi. Pierrette leva donc sur sa cousine des yeux attendris et se sentit prêt de lui pardonner toutes les douleurs qu'elle lui avait faites. Mais si tout cela n'est qu'hypocrisie, si je dois voir en vous un serpent que j'aurais réchauffé dans mon sein, vous seriez une infâme, une horrible créature. Je ne crois pas avoir de reproche à me faire, dit Pierrette, en éprouvant une horrible contraction au cœur par le passage subit de cette louange inespérée au terrible accent de l'hyène. Vous savez qu'un mensonge est un péché mortel. Oui, ma cousine. Eh bien, vous êtes devant Dieu, dit la vieille fille, en lui montrant par un geste solennel les jardins et le ciel. Jurez-moi que vous ne connaissiez pas ce paysan. Je ne jurerai pas, dit Pierrette. Ah, ce n'était pas un paysan, petite vipère. Pierrette se sauva comme une biche effrayée à travers le jardin, épouvantée de cette question morale. Sa cousine l'appela d'une voix terrible. Au sonne! Répondit-elle. Oh, quelle petite sournoise! Se dit Sylvie. Elle a l'esprit retors, et maintenant je suis sûre que cette petite couleuvre entortille le colonel. Elle nous a entendu dire qu'il était barreau. Être baronne, petite sotte. Oh, je me débarrasserai d'elle en la mettant dans l'apprentissage, et tôt. Sylvie resta si bien perdue dans ses pensées qu'elle ne vit pas son frère descendant l'allée et regardant les désastres produits par la gelée sur ses dahlias. Eh bien, Sylvie, à quoi penses-tu donc là? J'ai cru que tu regardais les poissons. Quelquefois, il y en a qui sautent hors de l'eau. Non, dit-elle. Eh bien, comment as-tu dormi? Elle subit à lui raconter ses rêves de la nuit. Ne me trouves-tu pas le teint manchuré? Autre mot du vocabulaire rogron. Depuis quand rogron aimait, ne profanons pas ce mot, désirait Mademoiselle de Chargeboeuf, il s'inquiétait beaucoup de son air et de lui-même. Pierrette descendit en ce moment le perron et annonça de loin que le déjeuner était prêt. En voyant sa cousine, le teint de Sylvie se plaqua de vert et jauni. Toute sa bile se mit en mouvement. Elle regarda le corridor et trouva que Pierrette aurait dû l'avoir frottée. Mais je frotterai si vous le voulez, répondit cet ange, en ignorant le danger auquel ce travail expose une jeune fille. La salle à manger était irréprochablement arrangée. Sylvie s'assit et affecta pendant tout le déjeuner d'avoir besoin de choses auxquelles elle n'aurait pas songé dans un état calme qu'elle demandait pour faire lever Pierrette en saisissant le moment où la pauvre petite se remettait à manger. Mais une tracasserie ne suffisait pas. Elle cherchait un sujet de reproche et elle se colérait intérieurement de n'en pas trouver. S'il y avait eu des œufs frais, elle aurait eu certes à se plaindre de la cuisson du sien. Elle répondait à peine aux sottes questions de son frère, et cependant elle ne regardait que lui. Ses yeux évitaient Pierrette. Pierrette était éminemment sensible à ce manège. Pierrette apporta le café de sa cousine, comme celui de son cousin, dans un grand gobelet d'argent, où elle faisait chauffer le lait mélangé de crème au bain-marie. Le frère et la sœur y mêlaient eux-mêmes le café noir fait par Sylvie en dose convenable. Quand elle eut minutieusement préparé sa jouissance, elle aperçut une légère poussière de café. Elle la saisit avec affectation dans le tourbillon jaune, la regarda, se pencha pour la mieux voir. L'orage éclata. « Qu'est-ce que tu as ?» dit Renon. « Mais j'ai que mademoiselle a mis de la cendre dans mon café. Comme c'est agréable de prendre du café à la cendre. Eh, c'est pas étonnant. On fait jamais bien deux choses à la fois. Elle passerait bien au café. Un merle aurait pu voler par sa cuisine et il n'y aurait pas pris garde ce matin. Comment aurait-elle pu voir voler la cendre ? Et puis le café de sa cousine, oh, cela lui est bien égal. » Elle parla sur ce ton pendant qu'elle mettait sur le bord de l'assiette la poudre de café passée à travers le filtre et quelques grains de sucre qui ne fondaient pas. « Même ma cousine, c'est du café !» dit Pierrette. « Ah oui, c'est moi qui mens !» s'écria Sylvie en regardant Pierrette et la foudroyant par une effroyable lueur que son œil dégageait en colère. Ces organisations que la passion n'a point ravagées ont à leur service une grande abondance de fluide vital. Ce phénomène de l'excessive clarté de l'œil dans les moments de colère s'était d'autant mieux établi chez Mademoiselle Rogron que jadis, dans sa boutique, elle avait eu lieu d'user de la puissance de son regard en ouvrant démesurément ses yeux, toujours pour imprimer une terreur salutaire à ses inférieurs. « Je vous conseille de me donner des démentis, » reprit-elle, « vous qui mériteriez de sortir de table et d'aller manger seul à la cuisine. »« Mais qu'avez-vous donc toutes deux ?» s'écria Rogron. « Vous êtes comme des crins ce matin. »« Mademoiselle sait ce que j'ai contre elle. » Je lui laisse le temps de prendre une décision avant de t'en parler, car j'aurai pour elle plus de bonté qu'elle n'en mérite. » Pierrette regardait sur la place, à travers les vitres, afin d'éviter de voir les yeux de sa cousine qui l'effrayait. Ben, elle n'a pas plus l'air de m'écouter que si je parlais à ce sucrier. Elle a cependant l'oreille fine. Elle cause du haut d'une maison et répond à quelqu'un qui se trouve en bas. Elle est d'une perversité, ta pupille, oh, d'une perversité sans nom. Et tu ne dois pas t'attendre à rien de mon d'elle, entendu, Rogron ? Et qu'a-t-elle fait de si grave ? Demanda le frère à la sœur. Mais à son âge, mais c'est commencé le bonheur ! S'écria la vieille fille enragée. Pierrette se leva pour desservir, afin d'avoir une contenance. Elle ne savait comment se tenir. Quoique ce langage ne fût pas nouveau pour elle, elle n'avait jamais pu s'y habituer. La colère de sa cousine lui faisait croire à quelque crime. Elle se demanda quelle serait sa fureur si elle savait l'escapade de Brigaut. Peut-être lui ôterait-on Brigaut. Elle eut à la fois les mille pensées de l'esclave, si rapides, si profondes, et résolut d'opposer un silence absolu sur un fait où sa conscience ne lui signalait rien de mauvais. Elle eut à entendre des paroles si dures, si âpres, des suppositions si blessantes, qu'en entrant dans la cuisine, elle fut prise d'une contraction à l'estomac et d'un vomissement affreux. Elle n'osa se plaindre, elle n'était pas sûre d'obtenir des soins. Elle revint pâle, blême, dit qu'elle ne se trouvait pas bien et monta se coucher en se tenant de marche en marche à la rampe et croyant l'heure de sa mort arrivée. « Pauvre Brigaut !» se disait-elle. « Elle est malade !» dit Rogron. « Elle malade ! Mais c'est léger !» répondit à haute voix Sylvie, et de manière à être entendue. « Elle n'était pas malade ce matin, va !» Ce dernier coup atterra Pierrette, qui se coucha, roula dans ses larmes, en demandant à Dieu de la retirer de ce monde. Depuis environ un mois, Rogron n'avait plus apporté le constitutionnel chez Gouraud. Le colonel venait obséquieusement chercher le journal, faire la conversation et emmener Rogron quand le temps était beau. Sûr de voir le colonel et de pouvoir le questionner, Sylvie s'habilla coquettement. La vieille fille croyait être une coquette en mettant une robe verte et un petit châle de cachemire jaune à bordure rouge, un chapeau blanc à maigre plume grise. Vers l'heure où le colonel devait arriver, Sylvie stationna dans le salon avec son frère, qu'elle avait contraint à rester en pantoufles et en robe de chambre. « Il fait beau, colonel !» dit Rogron en entendant le pas pesant de Gouraud. « Ben, je suis pas habillé. Ma sœur voulait peut-être sortir et m'a fait garder la maison. Attendez-moi » Rogron laissa Sylvie seule avec le colonel. « Ben, où voulez-vous donc aller? Vous voilà mise comme une divinité !» demanda Gouraud, qui remarquait un certain air solennel sur l'ample visage grêle de la vieille fille. « Non, oui, je voulais sortir, mais comme la petite n'est pas bien, je reste. »« Et qu'a-t-elle donc ?»« Oh, je ne sais, elle a demandé à se coucher. » La prudence, pour ne pas dire la méfiance de Gouraud, était incessamment réveillée par les résultats de son alliance avec Vinet. Évidemment, la plus belle part était celle de l'avocat. L'avocat rédigeait le journal, il y régnait en maître. Il en appliquait les revenus à sa rédaction. Tandis que le colonel, éditeur responsable, y gagnait peu de choses. Vinet et Gournan avaient rendu d'énormes services au Rogron. Le colonel en retraite ne pouvait rien pour eux. Qui serait député? Vinet. Qui était le grand électeur? Vinet. Et qui consultait-on? Vinet. Enfin, il connaissait pour le moins aussi bien que Vinet l'étendue et la profondeur de la passion allumée chez Rogron par la belle Bathilde de Changebœuf. Cette passion devenait insensée, comme toutes les dernières passions des hommes. La voix de Bathilde faisait tressaillir le célibataire. Absorbé par ses désirs, Rogron les cachait, il n'osait espérer une pareille alliance. Pour sonder le Mercier, le colonel s'était avisé de lui dire qu'il allait demander la main de Bathilde. Rogron avait pâli de se voir un rival si redoutable. Il était devenu froid pour Gouraud et presque haineux. Ainsi Vinet régnait de toute manière au logis, tandis que lui, colonel, ne s'y rattachait que par les liens hypothétiques d'une affection menteuse de sa part et qui, chez Sylvie, ne s'était pas encore déclarée. Quand l'avocat lui avait révélé la manœuvre du prêtre en lui conseillant de rompre avec Sylvie et de se retourner vers Pierrette, Vinet avait flatté le penchant de Gouraud. Mais en analysant le sens intime de cette ouverture, en examinant bien le terrain autour de lui, le colonel crut apercevoir chez son allié l'espoir de le brouiller avec Sylvie et de profiter de la peur de la vieille fille pour faire tomber toute la fortune des Rougon dans les mains de mademoiselle de Charlebœuf. Aussi, quand Rougon l'eut laissé seul avec Sylvie, la perspicacité du colonel s'empara-t-elle des légers indices qui trahissaient une pensée inquiète chez Sylvie. Il aperçut en elle le plan formé de se trouver sous les armes et pendant un moment seul avec lui. Le colonel, qui déjà soupçonnait véhémentement Vinet de lui jouer quelque mauvais tour, attribua cette conférence à quelques secrètes insinuations de ce singe judiciaire. Il se mit en garde, comme quand il faisait une reconnaissance en pays ennemi, tenant l'œil sur la campagne, attentif au moindre bruit, l'esprit tendu, la main sur ses armes. Le colonel avait le défaut de ne jamais croire un seul mot de ce que disaient les femmes. Et quand la vieille fille mit Pierrette sur le tapis, et la lui dit « coucher à midi », le colonel pensa que Sylvie l'avait simplement mise en pénitence dans sa chambre et par jalousie. « Elle devient très gentille, cette petite, » dit-il d'un air dégagé. « Oui, oui, elle sera jolie, » répondit mademoiselle Rogron. « Vous devriez maintenant l'envoyer à Paris, dans un magasin, » ajouta le colonel. « Elle y ferait fortune. On veut de très jolies filles aujourd'hui, chez les modistes. « Est-ce bien là votre avis ?» demanda Sylvie d'une voix troublée. « Bon, j'y suis, » pensa le colonel. « Vinet aura conseillé de nous marier un jour, Pierrette et moi, pour me perdre dans l'esprit de cette vieille sorcière. » « Mais, » dit-il à haute voix, « qu'en voulez-vous faire? Ne voyez-vous pas une fille de l'incomparable beauté, bat-il de Charlebœuf, une fille noble, bien apparente, et réduite à coiffer Sainte-Catherine? Personne n'en veut. Pierrette n'a rien, elle ne se marierait jamais. Croyez-vous que la jeunesse et la beauté puissent être quelque chose pour moi, par exemple ?» Moi qui, capitaine de cavalerie dans la garde impériale, dès que l'empereur eut sa garde, ai mis mes bottes dans toutes les capitales et connu les plus jolies femmes de ces mêmes capitales. Oh, la jeunesse et la beauté, c'est diablement commun et sot, m'en parlez plus. À 48 ans, dit-il en se vieillissant, quand on a subi la déroute de Moscou, quand on a fait la terrible campagne de France, on a les reins un peu cassés, je suis un vieux bonhomme. Une femme comme vous me soignerait, me dorloterait, et sa fortune, joie de mes pauvres 1000 écus de pension, me donnerait pour mes vieux jours un bien-être convenable, et je la préférerais 1000 fois à une mijaurée qui me causerait bien des désagréments, qui aurait 30 ans et des passions quand j'aurais 60 ans et des rhumatismes. À mon âge, on calcule. Tenez, entre nous soit dit, je voudrais pas avoir d'enfant si je me mariais. Le visage de Sylvie avait été clair pour le colonel pendant cette tirade, et son exclamation acheva de convaincre le colonel de la perfidie de Vinet. Ainsi, dit-elle, vous n'aimez pas Pierrette? Oh, ça, êtes-vous folle, ma chère Sylvie, s'écria le colonel. Est-ce que quand on n'a plus de dents, qu'on essaie de casser des noisettes? Dieu merci, je suis dans mon bon sens et je me connais. Sylvie ne voulut pas se mettre alors en jeu. Elle se crut très fine en faisant parler son frère. « Eh bien, mon frère, dit-elle, avais-tu l'idée de vous marier? » « Votre frère ne saurait avoir une idée si incongrue. Il y a quelques jours, pour savoir mon secret, je lui ai dit que j'aimais Mathilde. Il est devenu blanc comme votre collerette. » Il aime Mathilde, dit Sylvie, mais comme un fou. Et certes, Mathilde n'en veut qu'à son argent. Attrape Vinet, pensa le colonel. Comment alors aurait-il parlé de Pierrette? Non, Sylvie, dit-il en lui prenant la main et en la lui serrant d'une certaine façon. Puisque vous m'avez mis sur ce chapitre, il se rapprocha de Sylvie. Eh bien, il lui baisa la main. Il était colonel de cavalerie, il avait donné des preuves de courage. Sachez-le, je ne veux pas avoir d'autre femme que vous. Quoique ce mariage ait l'air d'être un mariage de convenance, de mon côté, je me sens de l'affection pour vous. Mais c'est moi qui voulais vous marier à Pierrette. Et si je lui donnais ma fortune, hein, colonel ? Ben, je veux pas être malheureux dans mon intérieur. Et dans 10 ans, y voir un jeune freluquet comme Julliard tournant autour de ma femme et lui adressant des vers dans le journal. Je suis un peu trop homme sur ce point. Je ne ferai jamais un mariage disproportionné sous le rapport de l'âge. Eh bien, colonel, nous causerons de tout cela sérieusement, dit Sylvie en lui jetant un regard qu'elle crut plein d'amour et qui ressemblait assez à celui d'une ogresse. Ses lèvres froides et d'un violet cru se tirèrent sur ses dents jaunes et elle croyait sourire. « Me voilà !» dit Rogron en emmenant le colonel, qui salua courtoisement la vieille fille. Gouraud résolut de presser son mariage avec Sylvie et de devenir ainsi maître au logis, en se promettant de se débarrasser par l'influence qu'il acquerrait sur Sylvie pendant la lune de miel de Bathilde et de Céleste Habert. Aussi, pendant cette promenade, dit-il à Rogron, qu'il s'était amusé de lui l'autre jour. Il n'avait aucune prétention sur le cœur de Mathilde. Il n'était pas assez riche pour épouser une femme sans dot. Puis il lui confia son projet. Il avait choisi sa sœur depuis longtemps, à cause de ses bonnes qualités. Il aspirait enfin à l'honneur de devenir son beau-frère. « Oh, colonel, oh, baron !» Oh, s'il ne faut que mon consentement, ce sera fait dans les délais voulus par la loi, s'écria Rognon, heureux de se voir débarrassé de ce terrible rival. Sylvie passa toute sa matinée dans son appartement à examiner s'il y avait place pour un ménage. Elle résolut de bâtir pour son frère un second étage et de faire arranger convenablement le premier pour elle et son mari. Mais elle se promit aussi, selon la fantaisie de toute vieille fille, de soumettre le colonel à quelques épreuves pour juger de son cœur et de ses mœurs avant de se décider. Elle conservait des doutes et voulait être sûre que Pierrette n'avait aucune accointance avec le colonel. Pierrette descendit à l'heure du dîner pour mettre le couvert. Sylvie avait été obligée de faire la cuisine et avait taché sa robe en s'écriant « Maudite Pierrette !» Il était évident que si Pierrette avait préparé le dîner, Sylvie n'eût pas attrapé cette tache de graisse sur sa robe de soie. « Ah, vous voilà, la belle Picheline! Vous êtes comme le chien du maréchal que le bruit des casseroles réveille et qui dort sous la forge. Ah ah, vous voulez qu'on vous croie malade, petite menteuse ?» Cette idée, vous ne m'avez pas avoué la vérité sur ce qui s'est passé ce matin sur la place. Donc vous mentez dans tout ce que vous dites, fut comme un marteau avec lequel Sylvie allait frapper sans relâche sur le cœur et sur la tête de Pierrette. Au grand étonnement de Pierrette, Sylvie l'envoya s'habiller pour la soirée après le dîner. L'imagination la plus alerte est encore au-dessous de l'activité que donne le soupçon à l'esprit d'une vieille fille. Dans ce cas, la vieille fille l'emporte sur les politiques, les avoués et les notaires, sur les escompteurs et les avares. Sylvie se promit de consulter Vinet après avoir tout examiné autour d'elle. Elle voulut avoir Pierrette auprès d'elle afin de savoir, par la contenance de la petite, si le colonel avait dit vrai. Mesdames de Chargeboeuf vinrent les premières. D'après le conseil de son cousin Vinet, Bathilde avait redoublé d'élégance. Elle était vêtue d'une délicieuse robe bleue en velours de coton, toujours le fichu clair, des grappes de raisin en grenat et or aux oreilles, les cheveux en ringlets, la Jeannette astucieuse, de petits souliers en satin noir, des bas de soie gris et des gants de Suède. Puis des airs de reine et des coquetteries de jeune fille à prendre tous les rogons de la rivière. La mère, calme et digne, conservait comme sa fille une certaine impertinence aristocratique avec laquelle ces deux femmes sauvaient tout et où perçait l'esprit de leur caste. Bathilde était douée d'un esprit supérieur que Vinet seul avait su deviner après 2 mois de séjour des dames de Chargebœuf chez lui. Quand il eut mesuré la profondeur de cette fille froissée par l'inutilité de sa jeunesse et de sa beauté, éclairée par le mépris que lui inspiraient les hommes d'une époque où l'argent était leur seule idole, Vinet, surpris, s'écria: Bien, si c'était vous que j'eusse épousé, Mathilde, je serais aujourd'hui en passe d'être garde des Sceaux. Je me serais appelé Vinet de Charlebœuf et je siégerais à droite. Mathilde ne portait dans son désir de mariage aucune idée vulgaire. Elle ne se mariait pas pour être mère, elle ne se mariait pas pour avoir un mari. Elle se mariait pour être libre, pour avoir un éditeur responsable, pour s'appeler madame et pouvoir agir comme agissent les hommes. Rogron était un nom pour elle. Elle comptait faire quelque chose de cet imbécile, un député votant dont elle serait l'amie. Elle avait à se venger de sa famille, qui ne s'était point occupée d'une fille pauvre. Vinet avait beaucoup étendu, fortifié ses idées en les admirant et les approuvant. Chère cousine, lui disait-il, en lui expliquant quelle influence avaient les femmes et lui montrant la sphère d'action qui leur était propre, croyez-vous que Tiphaine, un homme de la dernière médiocrité, arrive par lui-même au tribunal de première instance à Paris? Mais c'est Madame Tiphaine qui l'a fait nommer député. C'est elle qui le pousse à Paris. Sa mère, Madame Roguin, est une fine commère qui fait ce qu'elle veut du fameux banquier du Tillet, l'un des compères de Nucingen, tous deux liés avec les Keller, et ces trois maisons rendent des services au gouvernement ou à ses hommes les plus dévoués. Les bureaux sont au mieux avec ces loups cerviers de la banque, et ces gens-là connaissent tout Paris. Il n'y a pas de raison pour que Tiphaine n'arrive pas à être président de quelque cour royale. Épouser Rogron, nous en ferons un député de province quand j'aurai conquis pour moi un autre collège de Seine-et-Marne. Vous aurez alors une recette générale, une de ces places où Rogron n'aura qu'à signer. Nous serons de l'opposition si elle triomphe, mais si les Bourbons restent, ah, comme nous inclinerons tout doucement vers le centre. D'ailleurs, Rogron ne vivra pas éternellement, et vous épouserez un homme titré plus tard. Enfin, soyez dans une belle position, et les Chargebœuf vous serviront. Votre misère, comme la mienne, vous aura donné sans doute la mesure de ce que valent les hommes. Il faut se servir d'eux, comme on se sert des chevaux de poste. Un homme ou une femme nous amène de telle à telle étape. Vinet avait fait de Mathilde une petite Catherine de Médicis. Il laissait sa femme au logis, heureuse avec ses deux enfants, et il accompagnait toujours mesdames de Chargebœuf chez les Rogron. Il arriva dans toute sa gloire de tribun champenois. Il avait alors de jolies besicles à branches d'or, un gilet de soie, une cravate blanche, un pantalon noir, des bottes fines et un habit noir fait à Paris, une montre d'or et une chaîne. Au lieu de l'ancien Vinet, pâle et maigre, hargneux et sombre, il montrait, dans le Vinet actuel, une tenue d'homme politique. Il marchait, sûr de sa fortune, avec la sécurité particulière à l'homme du palais, qui connaît les cavernes du droit. Sa petite tête rusée était si bien peignée, son manteau bien rasé lui donnait un air si mignard, quoique froid, qu'il paraissait agréable dans le genre de Robespierre. Certes, il pouvait être un délicieux procureur général à l'éloquence élastique, dangereuse et meurtrière, ou un orateur d'une finesse à la Benjamin Constant. L'aigreur et la haine qui l'animaient la guerre avaient tourné en une douceur perfide. Le poison s'était changé en médecine. « Bonjour, ma chère, comment allez-vous ? » dit Madame de Chargebœuf à Sylvie. Bathilde alla droit à la cheminée, ôta son chapeau, se mira dans la glace et mit son joli petit pied sur la barre du garde-cendre pour le montrer à Rogron. « Qu'avez-vous donc, monsieur ? » lui dit-elle en le regardant. « Vous ne me saluez pas ? Ah bien, on mettra pour vous des robes de velours. » Elle coupa Pierrette pour aller porter sur un fauteuil son chapeau que la petite fille lui prit des mains et qu'elle lui laissa prendre comme si la Bretonne était une femme de chambre. Les hommes passent pour être bien féroces, et les tigres aussi, mais ni les tigres, ni les vipères, ni les diplomates, ni les gens de justice, ni les bourreaux, ni les rois ne peuvent, dans leurs plus grandes atrocités, approcher des cruautés douces, des douceurs empoisonnées, des mépris sauvages des demoiselles entre elles, quand les unes se croient supérieures aux autres, en essence, en fortune, en grâce, et qu'il s'agit du mariage, de préséance, enfin, des mille rivalités de femmes. Les « Merci, mademoiselle », que dit Bathilde à Pierrette, étaient un poème en 12 chants. Elle s'appelait Bathilde et l'autre Pierrette. Elle était une Chargebœuf, l'autre une Lorrain. Pierrette était petite et souffrante, Bathilde était grande et pleine de vie. Pierrette était nourrie par charité, Bathilde et sa mère avaient leur indépendance. Pierrette portait une robe de stoff à guimpes, Bathilde faisait onduler le velours bleu de la sienne. Bathilde avait les plus riches épaules du département, un bras de reine. Pierrette avait des omoplates et des bras maigres. Pierrette était Cendrillon, Bathilde était la fée. Bathilde allait se marier, Pierrette allait mourir fille. Bathilde était adorée, Pierrette n'était aimée de personne. Bathilde avait une ravissante coiffure, elle avait du goût. Pierrette cachait ses cheveux sous un petit bonnet et ne connaissait rien à la mode. Épilogue, Bathilde était tout, Pierrette n'était rien. La fière Bretonne comprenait bien cet horrible poème. « Bonjour, ma petite !» lui dit Madame de Chargebœuf du haut de sa grandeur et avec l'accent que lui donnait son nez pincé du bout. Et Vinet mit le comble à ces sortes d'injures en regardant Pierrette et disant « Oh, oh, oh !» sur trois tons. « Que nous sommes belles, Pierrette, ce soir !»« Belles ?» dit la pauvre enfant. « Oh, ce n'est pas à moi, mais à votre cousine qu'il faut adresser ce mot. »« Oh, ma cousine l'est toujours !» répondit l'avocat. « N'est-ce pas, Père Rogron ?» dit-il en se tournant vers le maître du logis et lui frappant dans la main. « Oui, » répondit Rogron. Et pourquoi le faire parler contre sa pensée ? Il m'a jamais trouvé de son goût, reprit Bathilde en se tenant devant Rogron. N'est-il pas vrai ? Allez, regardez-moi. Rogron la contempla des pieds à la tête et ferma doucement les yeux comme un chat qui l'on gratte le crâne. « Oh, vous êtes trop belle, dit-il, trop dangereuse à voir.
Pourquoi ? »
Rogron regarda les tisons et garda le silence. En ce moment, Mademoiselle Habert entra, suivie du colonel. Céleste Habert, devenue l'ennemi commun, ne comptait que Sylvie pour elle. Mais chacun lui témoigna d'autant plus d'égards, de politesse et d'aimables attentions que chacun la sapait, en sorte qu'elle était entre ses preuves d'intérêt et la défiance que son frère éveillait en elle. Le vicaire, quoique loin du théâtre de la guerre, y devinait tout. Aussi, quand il comprit que les espérances de sa sœur étaient mortes, devint-il un des plus terribles antagonistes des Rogron. Chacun se peindra, mademoiselle Habert, sur le champ, quand on saura que si elle n'avait pas été maîtresse, et surtout archi-maîtresse de pension, elle aurait toujours eu l'air d'être une institutrice. Les institutrices ont une manière à elles de mettre leur bonnet. De même que les vieilles Anglaises ont acquis le monopole des turbans, les institutrices ont le monopole de ces bonnets. La carcasse y domine, les fleurs en sont plus qu'artificielles. Longtemps gardé dans les armoires, ce bonnet est toujours neuf et toujours vieux, même le premier jour. Ces filles font consister leur honneur à limiter le mannequin des peintres. Elles sont assises sur leurs hanches et non sur leurs chaises. Quand on leur parle, elles tournent en bloc sur leur buste, au lieu de ne tourner que leur tête. Et quand les ressorts de ces espèces de mécanismes sont dérangés, mademoiselle Habert, l'idéal de ce genre, avait l'œil sévère, la bouche grimée, et sous son menton rayé de rides, les brides de son bonnet, flasques et flétries, allaient et venaient au gré de ses mouvements. Elle avait un petit agrément dans deux signes un peu forts, un peu bruns, ornés de poils qu'elle laissait croître comme des clématites échevelées. Enfin, elle prenait du tabac et le prenait sans grâce. On se mit au travail du boston. Sylvie eut en face d'elle mademoiselle Habert et le colonel fut mis à côté devant madame de Charlebœuf. Bathilde resta près de sa mère et de Rogron. Sylvie plaça Pierrette entre elle et le colonel. Rogron déploya l'autre table au cas où messieurs Néraud, Cournant et sa femme viendraient. Vinet et Bathilde savaient jouer le whist que jouaient M. et Mme Cournant. Depuis que ces dames de Charlebœuf, comme disaient les gens de Provins, venaient chez les Rogron, les deux lampes brillaient sur la cheminée entre les candélabres et la pendule, et les tables étaient éclairées en bougies à 40 sous la livre, payées d'ailleurs par le prix des cartes. « Eh bien, Pierrette, pendant que ton ouvrage, ma fille !» dit Sylvie à sa cousine avec une perfide douceur en la voyant regarder le jeu du colonel. Elle affectait de toujours très bien traiter Pierrette. Cette infâme tromperie irritait la loyale bretonne et lui faisait mépriser sa cousine. Pierrette prit sa broderie, mais en tirant ses poings, elle continuait à regarder dans le jeu de Gouraud. Gouraud n'avait pas l'air de savoir qu'il y eut une petite fille à côté de lui. Sylvie l'observait et commençait à trouver cette indifférence excessivement suspecte. Il y eut un moment de la soirée où la vieille fille entrevit une grande misère en cœur. Le panier était plein de fiches et contenait en outre 27 sous. Les gourmands et Néraud étaient venus. Le vieux juge suppléant d'Effondrille, à qui le ministère de la Justice trouvait la capacité d'un juge en le chargeant des fonctions de juge d'instruction, mais qui n'avait jamais assez de talent dès qu'il s'agissait d'être juge en pied, et qui depuis 2 mois abandonnait le parti des Tiphaine et se tournait vers le parti Vinet, se tenait devant la cheminée, le dos au feu, les basques de son habit relevés. Il regardait ce magnifique salon où brillait mademoiselle de Chargebœuf, car il semblait que cette décoration rouge eût été faite exprès pour rehausser les beautés de cette magnifique personne. Le silence régnait. Pierrette regardait jouer la misère et l'attention de Sylvie avait été détournée par l'intérêt du coup. « Jouez là !» dit Pierrette au colonel en lui indiquant « cœur ». Le colonel entame une séance de cœur. Les cœurs étaient entre Sylvie et lui. Le colonel atteint l'as, quoiqu'il fût gardé chez Sylvie, par 5 petites cartes. « Ah, le coup n'est pas loyal ! Pierrette a vu mon jeu !» Et le colonel s'est laissé conseiller par elle. « Mais mademoiselle, dit Céleste, le jeu du colonel était de continuer cœur, puisqu'il vous en trouvait. » Cette phrase fit sourire M. Desfondrilles, homme fin, et qui avait fini par s'amuser de tous les intérêts en jeu dans Provins, où il jouait le rôle de Rigaudin dans la maison en loterie de Picard. « C'est le jeu du colonel, » dit Gournand, sans savoir de quoi il s'agissait. Sylvie jeta sur Mademoiselle Amère un de ses regards de vieille fille à vieille fille, atroce et doucereux. « Pierrette, vous avez vu mon jeu, » dit Sylvie, en fixant ses yeux sur sa cousine. « Non, ma cousine. »« Je vous regardais tous, » dit le juge archéologue. « Alors, je puis certifier que la petite n'a vu que le colonel. »« Bon, les petites filles, » dit Gouraud, épouvanté, « savent joliment couler leurs yeux en douceur. »« Ah ?» fit Sylvie. « Oui, » reprit Gouraud, « elle a pu voir dans votre jeu pour vous jouer une malice. N'est-ce pas, ma petite belle ?»« Non, » dit la loyale bretonne, « j'en suis incapable. » Je me serais dans ce cas intéressé au jeu de ma cousine. Vous savez bien que vous êtes une menteuse, et depuis une petite sotte, dit Sylvie. Comment peut-on, depuis ce qui s'est passé ce matin, ajouter la moindre foi à vos paroles? Vous êtes une... Pierrette ne laissa pas sa cousine achever en sa présence ce qu'elle allait dire. En devinant un torrent d'injures, elle se leva, sortit sans lumière et monta chez elle. Sylvie devint pâle de rage, dit entre ses dents. Elle me le paiera. Payez-vous la misère, dit Madame de Charlebœuf. En ce moment, la pauvre Pierrette se cogna le front à la porte du corridor que le juge avait laissée ouverte. Bon, c'est bien fait, s'écria Sylvie. Mais que lui arrive-t-il? Demanda Desfondrilles. Oh, rien qu'elle ne mérite, répondit Sylvie. « Elle a reçu quelques mauvais coups, » dit Mademoiselle Amère. Sylvie essaya de ne pas payer sa misère en se levant pour aller voir ce qu'avait fait Pierrette. Mais Madame de Charlebœuf l'arrêta. « Payez-nous d'abord, » lui dit-elle en riant, « car vous ne vous souviendrez plus de rien en revenant. » Cette proposition, fondée sur la mauvaise foi que l'ex-mercière mettait dans ses dettes de jeu, ou dans ses chicanes, obtint l'assentiment général. Sylvie se rassit, ne pensa plus à Pierrette, et cette indifférence n'étonna personne. Pendant toute la soirée, Sylvie eut une préoccupation constante. Quand le boston fut fini, vers 9h30, elle se plongea dans une bergère au coin de sa cheminée, et elle ne se leva que pour les salutations et les adieux. Le colonel la mettait à la torture. Elle ne savait plus que penser de lui. « Oh, les hommes sont si faux !» dit-elle en s'endormant. Pierrette s'était donné un coup affreux dans le champ de la porte qu'elle avait heurté avec la tête à la hauteur de l'oreille, à l'endroit où les jeunes filles séparent de leurs cheveux cette portion qu'elles mettent en papillote. Le lendemain, il s'y trouva de fortes ecchymoses. « Dieu vous a puni, » lui dit sa cousine le lendemain au déjeuner. « Vous m'avez désobéi. Vous avez manqué au respect que vous me devez en ne m'écoutant pas et en vous en allant au milieu de ma paroisse. Vous n'avez que ce que vous méritez. »« Cependant, » dit Rogron, « oh, il faudra y mettre une compresse d'eau et de sel. »« Bon, ce sera rien, mon cousin, » dit Pierrette. La pauvre enfant était arrivée à trouver une preuve d'intérêt dans l'observation de son tuteur. La semaine s'acheva comme elle avait commencé, dans des tourments continuels. Sylvie devint ingénieuse et poussa les raffinements de sa tyrannie jusqu'aux recherches les plus sauvages. Les Illinois, les Cherokees, les Mohicans auraient pu s'instruire avec elle. Pierrette n'osa pas se plaindre des souffrances vagues, des douleurs qu'elle sentit à la tête. La source du mécontentement de sa cousine était la non-révélation relativement à Brigaut. Mais par un entêtement breton, Pierrette s'obstinait à garder un silence très explicable. Chacun comprendra maintenant quel fut le regard que l'enfant jeta sur Brigaut, qu'elle crut perdu pour elle s'il était découvert, et que par instinct elle voulait avoir près d'elle, heureuse de le savoir à Provins. Quelle joie pour elle d'apercevoir Brigaut! L'aspect de son camarade d'enfance était comparable au regard que jette un exilé de loin sur sa patrie, au regard du martyr sur le ciel où ses yeux armés d'une seconde vue ont la puissance de pénétrer pendant les ardeurs du supplice. Le dernier regard de Pierrette avait été si parfaitement compris par le fils du major que tout en rabotant ses planches, en ouvrant son compas, prenant ses mesures et ajustant ses bois, il se creusait la cervelle pour pouvoir correspondre avec Pierrette. Brigaut finit par arriver à cette machination d'une excessive simplicité. À une certaine heure de la nuit, Pierrette déroulerait une ficelle au bout de laquelle il attacherait une lettre. Au milieu de souffrances horribles que causait à Pierrette sa double maladie, un dépôt qui se formait à sa tête et le dérangement de sa constitution, elle était soutenue par la pensée de correspondre avec Brigaut. Un même désir agitait ces deux cœurs séparés, ils s'entendaient. À chaque coup reçu dans le cœur, chaque élancement de la tête, Pierrette se disait: Brigaut est ici. Et alors, elle souffrait sans se plaindre.